Voilà longtemps, très longtemps, il y a bien 50 ans peut-être, puisque, comme le comporte mon état civil, je suis dit être né le 4 septembre 1896 à Marseille, Bouches-du-Rhône, France, et que j'ai donc, socialement parlant, quelque chose comme 50 ans et 4 mois. Voilà donc plus de 50 ans que je me suis rendu compte d'un insigne et faramineux mensonge. Ce mensonge est que l'humanité a quelque part une bête qu'elle n'a jamais voulu éliminer, une espèce de bête suave qu'elle cache scrupuleusement en attendant le jour entre tous bénis et appelés par elle, où elle pourra la montrer au grand jour. Mais ça, c'est la vérité que l'homme est cet incoercible et goulus aligo, décrit dans 100 mythes, voulu par 100 mythes, et qui depuis leurs premières incrustations n'a pas bougé. Le mensonge est celui de cette honnêteté de façade qui, pour combien de temps encore, recouvre les rapports humains, alors que la grande obsession de la conscience, c'est le mal, l'assouvissement sans barrière de je ne sais quel abject désir entre l'érotisme et la charogne qui, chaque nuit, passe sur tout le monde. Mais que j'ai senti entrer en moi de façon beaucoup trop localisée et corporelle, pour n'en être pas devenu cet ennemi irréductible et définitif de la vie en société, que je me suis montré il y a 9 ans à Dublin, avec une certaine canne que j'étais allé montrer aux Irlandais, et qui fut cause de mon emprisonnement d'abord, de ma déportation ensuite, de mon internement pendant 9 ans enfin. Nous avons nos amis et nos ennemis. Je me suis rendu compte à plusieurs reprises, et une grande et définitive fois à Dublin, que tout n'était pas dit quand un de nos ennemis nous avait tourné le dos, insulté, craché au visage, frappé, et finalement laissé pour mort ou cru mort au coin d'une place, comme cela m'est arrivé un certain après-midi de septembre 1937 à Dublin, et il y avait après cela quelque chose de plus. Ce quelque chose est justement ce que la conscience, dans certaines circonstances, prend dans le domaine tabou et interdit de l'occulte. Et à quoi il est interdit de faire allusion sous peine d'être taxé de délire, d'hallucination, d'obsession, de persécution. J'ai 2 ou 3 dents contre la société actuelle. Je vais les sortir une fois pour toutes afin qu'il n'y ait plus d'erreur, ni de recours possible de moi contre qui que ce soit et de qui que ce soit contre moi. Et dans aucun sens. Bien qu'absolument lucide et sain d'esprit, je viens de passer 9 ans interné dans les asiles d'aliénés, et c'est une chose que je ne pardonnerai jamais à cette société de castrats imbéciles et sans pensée qui, depuis X ans qu'elle tourne sa langue dans son giron sale, n'a jamais pu, à travers je ne sais combien de penseurs, de poètes, de philosophes, de scribes, de rois, de bouddhas, de bonzes, de fétiches, de soviets, de parlements, de dictateurs, n'a jamais su proposer à personne une raison valable d'exister. Mon corps est à moi! Je ne veux pas qu'on en dispose. Dans mon esprit circule bien des choses. Dans mon corps ne circule rien que moi. C'est tout ce qui me reste de ce que j'avais. Je ne veux pas qu'on le prenne pour le mettre en cellule, l'encamisoler, lui attacher au lit les pieds, l'enfermer dans un quartier d'asile, lui interdire de sortir jamais, l'empoisonner, le rouer de coups, le faire jeûner, le priver de manger, l'endormir à l'électricité. Tout cela après l'avoir baptisé un jour, un certain jour, alors qu'il était trop petit pour se défendre, et je ne sais même pas si ce n'est pas ce baptême qui a tout fait. Mais je dis qu'ainsi c'est assez. Interné, empoisonné, endormi à l'électricité, la colonne vertébrale scindée en deux, le dos poignardé de 2 coups de couteau, c'est maintenant trop, et plus que trop, les choses en sont à un point où la question d'elle-même tombe, et que pour une explication dernière, il ne peut plus y avoir que la bombe ou le couteau. Et je dis que cette explication aura lieu avant qu'il soit longtemps, car j'ai vu bien des saletés dans mon existence, et j'ai fini par en attraper une peste morale, une espèce de puruance pressante. J'ai, contre la société actuelle, une dent concernant l'opium et toutes les plantes appelées, d'une manière aussi méphitique que stupide, drogue ou stupéfiant. J'en ai une contre l'internement, la médecine. J'en ai une à propos de tout ce qui touche aux envoûtements. J'en ai une contre la guerre, et elle est de poids, car pour la guerre, il faut le temps. Et on m'a volé tout mon temps, avec 9 ans d'internement. Enfin, le docteur Gaston Ferdière de Rodez m'a volé je ne sais combien de triards de siècles de mémoire, avec 2 ans d'électrochoc. J'ai été déporté d'Irlande à la suite d'émeutes de rue, qui eurent lieu autour et à propos de la canne que je portais à ce moment-là avec moi, vieux bois irréligieux, réputé magique, d'une effroyable densité. Et maintenant, assez avec le délire. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, c'est avec cette canne que je me suis défendu pendant 3 jours, moi seul, contre toute la police de Dublin. Me promenant tranquillement devant le jardin public de la ville, je fus tout à coup agressé par un agent provocateur en civil qui m'écrasa la colonne vertébrale et me la sépara en deux d'un terrible coup de barre de fer. Je chancelai, mais ne tombai pas. Il y eut quelque chose qui devait ressembler à un miracle, car on peut voir nettement sur moi, encore maintenant, la brisure. Pourtant, je ne tombai même pas à terre, et les deux morceaux séparés se recollèrent instantanément. Je me retournai et couchai à terre l'agent provocateur d'un coup de canne, et la bataille s'alluma. Les agents en uniforme survenus ayant pris mon parti contre les agents en civil aux ordres de l'intelligence service. Mais la force de la canne ne surprendra plus personne si l'on veut se souvenir que cette canne passe pour avoir été celle même de Saint-Patrick et avoir été plantée à Jérusalem au temps de Jésus-Christ. Or, je ne suis pas du tout Jésus-Christ. Mais cette canne, je me souviens de l'avoir plantée moi-même et je m'en souviens comme je me souviens par exemple d'être mort, je dis mort à Rodez, sous un électrochoc au mois de février 1943, lequel fait me fut confirmé 1 an après par le docteur Jean de Quecker, assistant du docteur Ferdière, médecin-chef de l'asile de Rodez, lequel raconta paraît-il un jour au docteur Jean de Quecker que j'étais après un électrochoc resté 1 heure et demie dans le coma et que lui-même avait eu très peur parce qu'il avait cru que j'étais mort. En tout cas, je ne sais pas si, ce faisant, j'adhère ou non à la théorie des vies antérieures, car si je considérais ma vie à Jérusalem il y a 2000 ans comme une vie antérieure, c'est alors que je n'y croirais pas, alors que mon impression vraie est de me souvenir de ma vie présente jusqu'à un point absolument insondable dans le temps. Ayant passé par Marseille enfant, je veux dire à l'âge néant, le 4 septembre 1896, je peux dire maintenant que j'ai 50 ans. Mais à l'époque, à Jérusalem, j'en avais 32 et 7 mois. Il y avait à l'époque un prêtre juif pédéraste de la secte des Esséniens, lequel se prétendait issu en droite ligne du Saint-Esprit, étant le fils d'une certaine mademoiselle Salem, Marie Salem, et d'un certain Joseph Nalpas. Il était aussi question d'un esprit, espèce de force ou d'attitude d'être. Je ne sais pas très bien, moi, comment on définit un esprit ou l'esprit étant homme et n'ayant jamais rien voulu avoir à faire avec quoi que ce soit de ce qu'on entend par esprit, force hystérique du hasard, incartade, givre brusquant, pierre d'être éborgné devant le coup de masse du passage d'on ne sait quel absent, de cet interminable absent, et qui ne sait que briller ou luire, faire choc. Et un Christ, Christ en se constipant, tête à queue devant le néant, lui, incartable du néant. Voilà ce que j'ai retiré de toutes les discussions concernant l'existence ou la non-existence de l'esprit appelé Jésus-Christ, et qu'un nombre incroyable d'individus dont ce prêtre, les Esséniens dont je parle, prétendait entendre parler en eux. Finalement, quand il s'agit de tenir tête à la meute soulevée de l'opinion, le prêtre juif pédéraste s'enfuit et je restais seul avec ma canne. Et ce n'est pas le prêtre, fils de Marie Salem et de Joseph Nalpas, qui fut crucifié sur le Golgotha. Savez-vous, monsieur Artaud, comment s'appelle le délire qui consiste à se prendre pour tel grand personnage historique dont on a épousé l'individualité ? Es-tu devenu fou, psychiatre imbécile ? Et où as-tu pris que je me prenais pour Jésus-Christ ? Je t'ai simplement dit, et je répète que moi, Antonin Artaud, 50 piges, je me souviens du Golgotha. Je m'en souviens comme je me souviens d'être à l'asile de Rodez au mois de février 1943, mort sous un électrochoc qui me fut imposé contre mon gré. Si vous étiez mort, vous ne seriez plus là. Je suis mort, réellement mort, et ma mort fut médicalement constatée. Et puis je suis revenu, comme un homme qui reviendrait de l'au-delà. Et je me souviens aussi de cet au-delà. Un jour de février 1943, peu de jours après mon entrée à l'asile de Rodez, tourmenté par de pressantes coliques, j'allais trouver le docteur Gaston Ferdière, médecin directeur de cet asile, et lui demandais de me faire l'aumône de 25 gouttes de laudanum. Je vis son visage se fermer, devenir raide. « Ah non, me dit-il d'un ton pressant. Ça non, par exemple, car voilà votre vieille toxicomanie qui vous revient. Et pour vous l'enlever, je vais vous faire une série d'électrochocs. » Et il m'en fit pendant 2 ans. L'électrochoc dont je mourus fut le troisième. Je m'étais mal endormi sous la décharge du courant et je me souviens d'avoir tourné hagard pendant un temps indéterminé, comme une mouche dans mon propre gosier. Puis je m'étais senti crever et jaillir au-dessus de ma propre dépouille, mais sans parvenir à me séparer tout à fait de mon corps. Je flottais dans l'air comme un ballon captif, me demandant de quel côté était la route et si mon corps m'y suivrait jamais. Car n'était-il pas tout ce que j'étais et ce que j'étais maintenant? N'était-il pas rien devant ce que mon corps avait toujours été, qu'il ne pouvait pas ne pas être à jamais? J'en étais là de ce débat, lorsqu'un brusque déclic me fit sombrer en terre et je me réveillai dans la chambre où l'électrochoc m'avait foudroyé. J'appris après que le docteur Ferdière, me croyant mort, avait donné l'ordre à 2 infirmiers de transporter mon corps à la morgue et que seul mon réveil à ce moment-là m'avait sauvé. Je ne sais pas dans quel recoin obscène de l'inconscient de sa propre pensée le docteur Ferdière puisa l'ordre de continuer à me faire de l'électrochoc, mais après cette sinistre incartade des choses, l'électrochoc me fut encore continué pendant 2 années malgré mes protestations réitérées. Je n'ai pas toujours retrouvé mes souvenirs concernant ma vie passée, jusqu'à des époques indéfiniment reculées, comme je les tiens depuis 10 années. Et c'est au Mexique, dans la haute montagne, vers août-septembre 1936, que j'ai commencé à m'y retrouver tout à fait. J'étais monté chez les Tarahumaras avec un signe, une espèce de petite épée de Tolède, attachée de 3 hameçons, qui m'avait été indiquée par un nègre sorcier de la Havane. Avec ça, me dit-il, vous pourrez entrer. Mais je n'ai pas désiré entrer. Or, qui va pourvoir quelque chose? C'est pour entrer dans un monde donné, mais jusque-là clos, insoupçonné. Ce n'est pas l'idée que je me fais des choses. Pour moi, il ne s'agit pas d'entrer, mais de sortir des choses. Or, qui se détache? C'est aussi pour entrer. Sortir peut-être, mais dans quelque chose. Quitter l'ici pour fondre ailleurs. Fondre et se libérer hors de l'ailleurs, ne pas fondre, mais se libérer dans le nulle part, ne plus savoir, renoncer à avoir existé, alors ne plus souffrir jamais. Les alternatives sont innombrables. Or, tout cela est idiot. Je n'allais pas au Peyote en curieux, mais au contraire en désespéré qui veut enlever de soi encore un dernier lambeau d'espérance, détacher la dernière petite fibre rouge de l'espérance spirituelle de la chair. Peyote, je l'ai déjà dit, est une râpe, un morceau de bois tailladé, incrusté de tous les sarclages, de toutes les encoches de mémoire qui creusèrent son corps endurci. Qui veut y trouver une notion, y perd un peu plus qu'un membre d'esprit, un peu plus qu'un squelette en vie. Mais ce n'est pas ce que je cherchais, car contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'ai jamais cherché le supranormal. Or, je n'allais pas au Peyote pour entrer, mais pour sortir. J'ai toujours eu assez de mal à vivre les états réputés normaux. Aller, venir, s'asseoir, se lever, marcher, courir, tourner, se pencher, serrer, détendre, s'allonger, se coucher, se détendre, se recroqueviller, mâcher, avaler, énoncer, prononcer, articuler, mastiquer, pour aller chercher dans ce qu'on appelle méphitiquement des drogues, des états supranormaux. La vertu première de l'opium est de nous rendre la réalité et de nous permettre de nous y tenir, sans délire, ni hallucination. avec équilibre et pondération. Avec l'opium, le réel a son poids vrai, sans perte ni exagération, hors le poids mort des revêtements imbéciles, des corporisations spirituelles imbéciles que la littérature, la poésie, les écrits, la philosophie, la raison, les rites, l'intelligence, la morale, la science lui avaient de siècle en siècle ajouté. Le Peyolt, lui, ne rend pas le réel, mais il décourage de l'intelligence et il nous renvoie dans la vie comme purgé après une phase indicible de transe où l'on... Je ne voulais pas, en allant au Peyolt, entrer dans un monde neuf, mais sortir d'un monde faux. Nul, au point où nous en sommes, ne peut plus dire qu'il est en lui une douleur ou une sensation pure, directement jaillie de lui et pure, et qui lui rende ce qu'il est, lui. Nous vivons sur un odieux atavisme physiologique qui fait que, même dans notre corps et seul, nous ne sommes plus libres, car sans père, mère, ont pensé et vécu pour nous, avant nous. Et ce que nous pourrions à un moment donné, à l'âge dit de raison, trouver de nous-mêmes, la religion, le baptême, les sacrements, les rites, l'éducation, l'enseignement, la médecine, la science, s'empressent de nous l'enlever. J'allais donc vers le Peyolt pour me laver. Il faut croire que le monde de l'esprit et de l'intelligence déjà faite, le monde de la raison et des choses depuis toujours stabilisées dans leur être, unanime et obscène d'inanité, ne l'entendent pas de cette oreille. Car la fatigue de 6000 mètres d'escalade de la montagne à cheval ne fut rien à côté de toutes les vagues furieuses de résistance qui vinrent sur moi et me furent lancées de tous les côtés de l'étendue. J'ai déjà dit un mot de tout cela dans mon petit livre « Voyage au pays des Tarahumaras ». Mais je n'ai pas tout dit. Et tel qu'il est écrit, ce livre, sans dissimuler l'essentiel, ne met pas assez le doigt sur la plaie, c'est-à-dire la nature vraie des obstacles avec lesquels, sur la montagne, j'eus pendant un mois à me colter. Ces obstacles s'appellent des envoûtements. Et j'eus pendant près de 5 semaines à me battre jour après jour avec des ondes inlassables et indescriptibles d'envoûtement. Quand on parle en général d'envoûtement, ni celui qui en parle, ni celui à qui on en parle, n'y croit très bien et ne prend très au sérieux la manœuvre qu'il accuse. C'est ainsi que le mot d'envoûtement ne laisse en général dans l'esprit que le sentiment d'un malaise vague, d'une espèce d'oppression anormale, mais assez peu caractérisée, et qui ne quitte jamais l'atmosphère du mythe pour retrouver celle de la réalité. En ce qui me concerne, ce ne fut pas le cas, et ça n'a jamais été le cas. Car les envoûtements du pays des Tarahumaras ne furent dans ma vie qu'un épisode passager au milieu de cette longue et interminable bataille avec l'occulte qui, loin de s'éteindre, ne cesse jamais, jour après jour, de s'accroître et de s'aggraver. Or, nous ne sommes pas ici dans le cabinet du docteur Ferdière à Rodez. Et courais-je le risque, comme cela m'est arrivé dans le cabinet du docteur Ferdière à Rodez, de voir apparaître 2 infirmiers prêts à me sauter dessus, que cela ne me fermerait pas la bouche, pas plus qu'à la menace de me voir une fois de plus passer à l'électrochoc. Il ne m'a jamais été possible à Rodez de prononcer devant le docteur Ferdière le mot d'envoûtement sans être accusé immédiatement de délirer et menacé d'électrochoc et d'insulinothérapie. J'ai souffert les envoûtements de la montagne au Mexique. J'en ai souffert d'autres un peu partout. J'en ai souffert de particulier à Rodez. Et j'eus un jour la naïveté de vouloir en toucher un mot au docteur Gaston Ferdière, médecin-chef de l'asile de Rodez. Je ne lui ai pas plutôt ouvert la bouche pour lui dire que je me croyais envoûté. Et de quelle façon? Car j'avais ramassé tout un nombre de précisions extrêmement concrètes, localisées et circonstanciées, qu'il me coupa brutalement la parole en me disant « Allons, allons, monsieur Artaud, je crois que votre délire vous reprend. Comment mon délire? Je suis en train de vous citer des faits et je vais vous en montrer des preuves. » Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Délire avec obstination? Eh bien, je vais recommencer une série d'électrochocs et écrire à votre ami Jean Pollan pour lui dire que je vais à nouveau vous passer à l'électrochoc. Mais enfin, je ne suis pas le seul écrivain à avoir parlé en envoûtement. Et Huysmans dans là-bas, Huysmans était fou comme vous. Et tous ceux qui ont cru à l'au-delà étaient des fous. Voyez Nietzsche et Gérard de Nerval. Quant aux envoûtements, jamais la preuve scientifique d'un envoûtement n'a pu être faite. Et puisque vous vous obstinez, vous ne sortirez jamais de cette maison et demeurerez interné pendant toute votre existence. Je voulus lui dire que non seulement les envoûtements existaient, mais que je le croyais, lui, possédé, à ce moment-là, et que je voyais autour de lui et derrière lui le cercle étagé de toutes les mauvaises consciences intéressées à me fermer la bouche et à me faire perdre la mémoire sous une nouvelle série d'électrochocs. Or, je ne crois pas que je puisse passer pour un lâche. Il y eut un certain jour de décembre 1944 où je menaçais le docteur Ferdière de lui sauter dessus et de l'étrangler s'il ne renonçait pas immédiatement à l'idée d'une nouvelle série d'électrochocs qu'il voulait entreprendre sur moi. Mais ce jour-là, et dans le cabinet de ce médecin, je me sentis la langue plombée matériellement et physiquement congelée. Et il me fut dans l'impossibilité absolue d'articuler une seule parole. Il y a pourtant une certaine lettre parue dans mon livre de lettres de Rodez, où je raconte, page 51, dans quelles circonstances le docteur Ferdière fut envoûté et endormi dans son propre bureau par une femme, une catholique pratiquante de Rodez, qu'il me enjoignit de me retirer l'autorisation de sortir en ville et de me garder à l'asile et de m'y traiter électrochoc, insulinothérapie, cardiazole, etc. Et c'est pourtant bien le même homme qui, quelques mois après, me menaçait d'électrochoc si je ne renonçais pas à l'idée que l'histoire de mon existence entière ne s'explique pas sans envoûtement. Or, je dis que sans envoûtement, ma vie n'aurait jamais été celle de cet homme qui, depuis 31 ans exactement, depuis le mois de septembre 1915, a besoin d'opium pour revenir à lui, qui sans opium ne peut plus se trouver ni se comprendre, et qui doit d'ailleurs à l'opium d'être encore en vie à cette heure et d'avoir pu supporter la vie. Et il n'est pas clair qu'un jeune homme de 20 ans, qui ne fréquente pas le milieu et qui vit... Et vit seul, reçoive en plein midi, je veux dire, à l'heure de midi à Marseille, au mois de juin 1916, un coup de couteau d'un souteneur, dans les circonstances que j'ai racontées dans mes lettres de Rodez, page 38. Il n'est pas très clair ni très normal non plus qu'un écrivain qui se promène à Dublin avec une canne, peut-être hétéroclite, mais qui dans ses mains faisait plutôt figure d'objet de théâtre que d'armes, reçoive sur la place de Dublin à 3 heures dès l'après-midi, le 18 septembre 1937, un coup de barre de fer d'un agent provocateur, lequel lui scinde la colonne vertébrale. Il y eut toujours, dans toute ma vie, une aura sombre. Et cette aura ne fut pas une image poétique sur les hauteurs de la montagne mexicaine, dans le pays des Tarahumaras, mais une série de vagues pestilentielles de miasmes qui obscurcissaient l'air en ondes furieuses 3, 4, 5 ou 6 fois par jour, et cela pendant près d'un mois. Un envoûtement est une influence ténébreuse magique, portée par des corps, lancée par des corps, transmise et transférée par des séries inépuisables de corps, non pas psychiques, mais organiques. Je l'ai dit. Je gravissais la montagne à cheval comme une espèce d'automate paralysé. Le sentiment de vide inépuisable qui est en moi m'avait poussé à Mexico à reprendre de l'opium. Allant chez les Indiens, je savais que je n'en trouverais plus. Et puis, je voulais me rencontrer avec le Peyalt, avec un corps vierge de toute autre espèce d'attouchement, quitte à souffrir le vertige du vide interne. Arrivé au pied de la montagne, je jetais dans le torrent ma dernière dose d'héroïne, puis je montais sur un cheval. Au bout de 6 jours, mon corps n'était plus de chair, mais d'os, assoiffé de la multitude de litres d'excréments liquides que j'avais perdus. Le départ de l'opium resserre les fibres, ouvre d'arides courants de vide dans la peau, et l'épiderme n'est plus qu'une énorme gencive irascible, une mâchoire comme un fleur de peau. Je connaissais tout cela. Mais sur la montagne, cet état revêtit des proportions inaccoutumées. Au bout de 3 ou 4 jours, les douleurs de la désintoxication s'apaisent. Il y a en tout cas un palier qui ne franchit guère le 4e jour, après quoi le mal va en décroissant. Vers le 4e jour, au contraire, j'eus un spasme. Une espèce d'épouvantable suffocation d'entraille, comme si mon ventre était devenu le gouffre tourbillonnant de mon souffle. 5e jour, je crus entrer en enfer. J'y voyais rouge, littéralement. Il me semble que la route brûlait. Mon cheval lui-même avait comme peur d'avancer. J'avais vu sur les pentes de la montagne autour de moi des allées et venues bizarres d'Indiens qui apparaissaient et disparaissaient. Je demandai à mon guide ce que cela signifiait. La première fois, il haussa les épaules, puis inclina la tête et ne dit mot. La deuxième fois, il pâlit et me regarda d'un air bizarre. La troisième fois, comme je l'interrogeais véhémentement, il se troubla comme une espèce de grand enfant pris en faute. Un jour, j'aperçus un groupe d'Indiens couchés sur la terre dans des poses bizarres, la tête en bas et les pieds en haut, qui frappaient la terre de leurs mains et semblaient en prendre et en avaler des morceaux. Et j'entendais à 2 ou 3 kilomètres de distance leurs sauvages éructations. Vers le cinquième jour, il y eut comme des bruits de tam-tam, mais non un tam-tam rassurant comme celui des expositions ou des foires, non un tam-tam utérin, perforant comme certains tam-tams arabes ou nègres, mais un tam-tam sec, aride, comme si 100 000 forêts carbonisées rendaient leur âme en nous accusant. Plusieurs Indiens tenaient leurs mains à la hauteur de leur ventre et heurtaient la terre de leur poing gauche en roulant vers moi des yeux furibonds. « Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ?»« Et qu'est-ce que vous me voulez ?» leur hurlai-je un après-midi. « Et qu'est-ce que c'est que ces simagrées ?» Ils me regardèrent en éclatant de rire, tout plein de pitié pour ma naïveté. « Monsieur, laissez-les. Il ne faut pas les troubler. Ils envoûtent !» me dit mon guide terrifié. « Comment ils envoûtent ? Ils lancent sur moi des ondes affreuses ? Il faudrait leur laisser la paix ?» Et en effet, autour d'eux s'élevait une espèce de poussière rouge ocrée, par endroits noirs. Ils vous envoûtent. Ils disent que vous y voyez trop clair, que ce monde est faux, que les choses ne sont pas ce qu'elles apparaissent, que vous le savez, que vous êtes le seul à le savoir et à vouloir le dire, que tout ce qu'on voit n'est qu'une façade, que la conscience déborde sur la conscience, que ce que les gens font ouvertement n'est rien à côté de ce qu'ils font en se cachant, etc., etc. Je crus d'abord que c'était de la terre qu'ils soulevaient de leurs poings. Puis je m'aperçus que cette poussière se formait en réalité un peu au-dessus d'eux, après une zone de vide qui ceinturait étroitement leur corps, comme la flamme d'un alcali volatile. Quand il n'était que 2 ou 3 psalmodies à se débattre, la flamme s'éteignait rapidement. Mais pour peu que leur nombre augmentât, la flamme prenait des allures de tornade. « Mais enfin, que font-ils exactement ?» demandai-je à mon guide, en grattant la terre de leur poing gauche, tandis qu'ils tiennent leur main droite à hauteur de leur nombril. « C'est que ce n'est pas leur nombril, » me dit alors mon guide troublé. Je regardai mieux, et je m'aperçus enfin que mes Indiens se masturbaient purement et simplement en me fusillant de regards, qui me paraissaient comiques, mais qui pour eux, sans doute, voulaient être assassins. « Ah, les saligots ! Ils m'envoûtent en se masturbant et ils lancent sur moi des tornades de miasmes sortis de leur sexe de pourceau ? Eh bien, nous allons voir ça !» Ils étaient sur l'autre versant de la montagne, opposé à celui sur lequel je me trouvais. Un torrent nous séparait. S'ils avaient été près de moi, je leur aurais sans hésitation tranché la gorge. Et tout à coup, la mémoire me revint et je compris toute mon existence. J'étais sur le point de demander à mon guide, « Mais enfin, mais qu'ont-ils contre moi ?» lorsque je m'aperçus que je le savais moi-même, et que ce qu'ils avaient contre moi était d'être Arto, le vieil Arto, crucifié à Jérusalem, et qu'ils voyaient comme ressuscité, et qu'il fallait à tout prix et par tous les moyens l'empêcher de retrouver et la mémoire et son antique personnalité. Et pour cela, il ne fallait à aucun prix que je pusse prendre du payolte et me faire délaver l'esprit par le rite de la râpe noire, ce pourquoi toute la montagne se dressait contre moi. Le but était mon asphyxie, ma mort, et je dois dire que par moments, ils furent bien près d'y arriver. Comment je pus renverser la barrière ? Mais en faisant comme eux, et moi aussi de la magie, mais pas de la même façon qu'eux. Et moi aussi, je suis peintre, me dis-je, en les voyant sortir de leur corps ces forces de miasmes sombres qui se rassemblaient à 50 cm au-dessus de leur colonne vertébrale, devant leur rotule, leur ventre, leurs pommettes et leurs poumons. Et derrière ces envoûtements, il y en avait d'autres, et j'en voyais à perte de vue, au-dessus de leur tête, comme si l'espace, en s'amollissant, avait dissous la ligne d'horizon. Et au-dessus d'eux, c'était plus grave, infiniment plus grave que chez eux. C'est que les Indiens, même mauvais, se sont toujours retenus de sombrer dans la bestialité intégrale, comme le reste de l'humanité. La dernière pudeur devant le mal complet, L'abjecte pullation du Christ érotique rouge, mangeant en testicules son propre cervelet sexualisé. Ce sont les rouges qui l'ont conservé. C'est ainsi que je n'ai pas vu au Mexique les inénarrables scènes de sodomisation à la chaîne qui ont lieu journellement dans les partouzes, à Paris comme au fond de l'Asie. Les envoûtements pour agir ont besoin de la masse, et 15 personnes empilées l'une sur l'autre ont beaucoup plus de force pour faire venir le mauvais esprit qu'une seule au fond de son lit. D'ailleurs, il n'y a pas de mauvais esprit. Il y a 15 personnes déshabillées dans des attitudes macaronesques où le vrai théâtre aurait de hautes notions techniques à prendre s'il ne redoutait pas tant de fricoter. Le but est de se transférer par scission le corps d'un autre. Mais ce que l'Orient, le faible Orient, se transfère quand il s'y met, ce n'est pas le corps d'un individu, mais le corps social d'un peuple dont on peut dire, sans forcer les termes, qu'il vampirise les institutions. Car les hauts gourous initiés de Mongolie ou du Tibet n'y vont pas de main morte quand ils touchent au monde secret. Seulement, ces hauts gourous initiés ne sont pas 15, ils sont 1500 000, 15 millions, 150 millions, 1 milliard 500 millions. Et leur masse constitue un théâtre sans nom. Tout ce que nous vivons n'est qu'une façade. La réalité est dans cette magie opératoire, sensorielle, à laquelle participent à jour et périodes nettement étiquetées, cataloguées, déterminées des masses innombrables d'hommes, de femmes, d'êtres qui ont joué leur destinée éternelle sur le coup de dé de savoir et de faire que la vie se maintienne dans les cadres qui leur ont toujours profité. Et quand je dis la vie, je ne fais pas seulement allusion à la vie sociale moderne qui vit sur un certain nombre d'idées et d'institutions déterminées. Religion, législation, manières, mœurs, morale, famille, patrie, nation, science, philosophie, médecine, prison, morgue, journaux, radio, TSF, maladie, cimetière, conservation des maladies. Mais je fais allusion à la vie, cette sporade, cette graine radiophysique de magie dont personne n'a jamais, depuis que le monde est monde, pu dire exactement ce qu'elle était, mais qui, en ce qui concerne l'homme, a été enfermé dans une anatomie dont Dieu est le dernier responsable, certes, mais dont un certain nombre de singes faits hommes n'ont pas craint de désarticuler la monade, je ne sais pas dans quel lazaret d'atomes enfoui, afin de dresser en pied ce squelette, habillé de chair et surchargé d'organes, qui est depuis, après tout, assez peu de siècles, 40 ou 50 au maximum, l'homme que nous nous sentons être aujourd'hui, et qui n'a jamais eu d'autre intérêt que de fournir à la médecine la séquelle, chaque jour un peu plus chargée et complète, de la horde interminable des maladies. Ainsi donc, à bien vous comprendre, monsieur Artaud, l'homme actuel ne remonterait pas à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. À peine. Et avant, c'était la fin du monde?
Même pas.
Et quel est l'avantage de votre thèse? L'avantage est que voilà 31 ans que j'ai compris que je ne m'entendais plus avec moi-même et avec le temps, j'ai compris pourquoi. C'est que je n'ai pas le corps que je devrais avoir. Le mental ne fait pas le corps, mais le corps dégage le mental. Et le corps de tout le monde dégage un épouvantable esprit, parce que voilà 4000 ans que l'homme a une anatomie qui a cessé de correspondre à sa nature. L'anatomie où nous sommes engoncés est une anatomie créée par des âmes battées, médecins et savants qui n'ont jamais pu comprendre un corps simple et qui avaient besoin pour vivre de se retrouver dans un corps qui leur répondit et qu'ils comprissent. Et ils se sont emparés du corps humain, et l'ont refait suivant les principes d'une claire et saine logique, point par point, organe par organe, analytique de leur façon. Mais c'est une histoire à dormir debout, monsieur Artaud, voyons. Vous délirez. Je voudrais bien savoir comment les médecins et les savants auraient pu s'y prendre pour refaire le corps humain. C'est pourtant bien le fonctionnement, on pourrait dire, syllogistique du corps humain, tel qu'il existe actuellement, qui est cause de toutes les maladies. Merde ! Et à la barbaque à la fin, avec la philosophie, avec ses termes ! Reprenez où vous en étiez resté. J'en étais resté à dire que le corps humain n'avait pas été fait pour être malade, pour se dégrader et pour mourir. C'est l'épouvantable pullulation des nerfs, l'épouvantable fractionnement de la circulation sanguine qui sont cause de toutes les maladies. Le sang est un corps électrique, ce n'est pas un corps aqueux. On ne liquéfie pas une énergie vitale. On ne tronçonne pas le caillot d'un soupir. La transe électrique d'un soupir. On ne répartit pas l'orifice d'un spasme. Monsieur Arthaud, vous allez tout de même pas nous faire croire que vous avez assisté à la constitution métaphysique et mythique, à la préparation organique du corps humain. Et c'est que justement, j'ai comme une idée que j'y assistais et que j'y étais. Je ne sais pas comment on a préparé le corps des autres, mais j'ai comme le souvenir d'une espèce d'ignoble opération chirurgicale où c'était bien mon corps à moi, Arthaud, et pas un autre qui se recroquevillait et se retournait sur le bio. C'est un rêve. Cet instant de mes souvenirs est en effet comme un rêve, car le temps où je demeurais entre les mains de mes ennemis fut très court. Je me souviens au contraire d'une espèce de saut magnétique en bombe, où j'échappais d'un bloc à mes suppliciateurs. Ce n'est malheureusement pas ce qui se passa à Rodez, ce n'est malheureusement pas non plus ce qui se passa dans les asiles du Havre, à Rouen, à Sainte-Anne, à Paris, où je demeurais pendant 3 ans au secret, privé de toute relation avec le monde extérieur, et pendant lesquels on répondait aux amis qui venaient prendre de mes nouvelles, « Ne vous occupez plus de monsieur Antonin Artaud, il est mort! Si je ne suis pas mort, c'est que j'ai la vie dure !» En tout cas, je ne sortis pas pendant mes 5 mois de séjour à l'asile des Quatre Mars, d'un état de dysenterie interminable et incessant. Et je me souviens d'un certain infirmier qui, entrant dans la cellule où je couchais sur une paillasse à même le sol, s'écria « Quelle chiasse ! Non mais quelle chiasse ! On n'a jamais vu une chiasse comme ça !» Et il regardait du côté du trou qui tenait lieu de WC et où d'intolérables coliques m'avaient contraint de demeurer accroupi pendant à peu près toute la nuit. Ainsi donc, tout ceci étant, je dirais, répondant et parlant à toute la psychiatrie de police qui continue à mener les choses en sous-main au même titre que le confessionnal, les fonts baptismaux ou la table d'Eucharistie, non seulement les envoûtements existent, mais encore il n'y a que cela, effectivement et objectivement, qui existe. Et toute cette société de singes mal appris qui m'a interné pour me faire disparaître et garder 9 ans interné dans l'espérance que ma vie, au moins devant la souffrance, lâcherait pied, toute cette société, dis-je, qui ne veut pas en entendre parler, en vient, c'est d'un envoûtement. Et sa psychiatrie la représente à merveille. On a la religion, l'armée, la police, les mœurs, les institutions qu'on se veut et qu'on se mérite. Et la société s'est forgée. Cette arme si merveilleusement au point et poignante, si perfidement et méticuleusement ajustée qu'on appelle la psychiatrie, afin de décourager par la base, de décourager les volontés qui pourraient s'élever de remettre les choses au point. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'elle ait laissé les poisons de côté. Mon dernier souvenir d'empoisonnement remonte à l'asile de Sainte-Anne, au mois de mars 1938. Après 5 mois de torture sans nom, je fus transféré de l'asile des Quatre Mars à l'asile de Sainte-Anne-Seine. J'y étais depuis 3 jours quand, me sentant à nouveau et pour changer d'épouvantable colique de sang, je demandais au docteur Versier, assistant du docteur Naudet, chef de service du professeur Claude, une poudre de charbon de Belloc et de bismuth. Il me l'a promis, mais je vous l'apporterai moi-même, dit-il à l'infirmier qui me soignait. Ce ne sera pas la peine pour cela de descendre à la pharmacie. Or, ce n'est pas régulier. Le médecin traitant marque ses prescriptions à l'heure de la visite et l'infirmier va chercher la préparation à la pharmacie de l'asile. Jamais un médecin n'apporte de chez lui un médicament pour le remettre à un infirmier de la main à la main. L'infirmier revint le lendemain avec son paquet de poudre et le docteur Versier que le docteur Versier lui avait apporté. Or, le docteur Versier était à ce moment-là l'amant d'une espèce d'initié de police, mademoiselle Delchingen, qui faisait partie d'un groupement d'initiés dirigé par Griot de Givry, mort depuis. Je n'avais pas plutôt absorbé la poudre que je fus saisi d'un vertige foudroyant et d'une crampe horrible avec dysenterie sanglante et que je tombai en syncope sur le bord de mon lit. On me releva et on me coucha. Et je restai de ce jour-là 1 mois entier dans le coma. Docteur Chapoulot, deuxième assistant du docteur Naudet, prit ma tension artérielle qui marquait, paraît-il, 2,5. Je l'ai su depuis. Il fit la grimace comme pour dire à l'infirmier « Cet homme ne passera pas la nuit ». J'en revins. Mais j'y perdis les 8 ou 10 dents qui me restaient et qui tombèrent au milieu d'insurmontables douleurs. Je suis, pour le psychiatre de la société actuelle, le type parfait de ce persécuté mythomane qui continue à raisonner sur son cas avec la plus désarmante lucidité. Mais je crois que 5 mois d'empoisonnement systématique, 3 ans de mise au secret, 9 ans d'internement arbitraire sont déjà une preuve suffisante que les persécutions dont je me plains sont un fait et non pas une idée. Et je crois que le coup de barre de fer spontanément appliqué sur ma colonne vertébrale à 3 heures de l'après-midi devant le jardin public de Dublin est un autre fait. Comme l'entrée brusquée à 3 heures de l'après-midi aussi sur le Washington d'un Stewart et d'un chef mécanicien armé d'une clé anglaise alors que debout devant les hublots de ma cabine, je regardais quel moment la mer. Et j'ai encore dans le dos les cicatrices de 2 coups de couteau qui me sont tombés, si on peut dire, du ciel, l'un en 1916 à Marseille, l'autre en 1928 à Montmartre dans une bataille de rue. Quant à moi qui, avec mon corps ainsi placé, me trouve au carrefour même de la bagarre, et à qui rien n'échappe de ce qui se passe autour de moi, sur moi, par-dessus moi, au-dessus de moi et contre moi, et je dis que ce qui se passe est une sale et méphitique histoire où la police côtoie le prêtre, et le prêtre, le psychiatre et le savant, dans une série de manœuvres qu'on peut, si l'on veut, appeler magiques parce qu'elles se cachent, mais qui, pour moi, n'ont d'occulte que la dimension d'un linge sale fait pour dissimuler un simple trou du cul. La société me dit fou parce qu'elle me mange, et elle en mange d'autres, pas au hasard, pas psychanalytiquement en image, mais d'une manière systématique et concertée. Et elle a voulu m'assassiner et me faire disparaître parce que j'ai vu qu'elle me mangeait. Et j'ai toujours voulu dire ouvertement et publiquement que mes seuls rapports entre moi et elle étaient d'avoir voulu me forcer à me laisser librement manger. La conscience ne se tient pas aux rapports extérieurs. Bonjour, bonsoir, comment vas-tu? Je t'aime, pourquoi ne veux-tu plus m'aimer? Que nous avons avec les êtres. Elle déborde l'espace immédiat et visible du corps humain. Le corps est une multitude affolée, une espèce de mal assoufflé qui ne peut jamais avoir fini de révéler ce qu'elle recèle. Et elle recèle toute la réalité. Ce qui veut dire que chaque individu qui existe est aussi grand que toute l'immensité et peut se voir dans toute l'immensité. Qui ne le voit pas avec la merde aux pieds qui l'empêche d'évoluer sur un plan plus grand que son nez? Moi, je n'ai cessé de voir non ce que les gens me disent, mais ce qu'ils sont quand ils ne parlent pas, ne disent rien, et qu'ils sont loin. C'est ainsi que la masse ne veut pas de ma poésie, et que lorsqu'il a été question de cette séance-ci, il m'a été répondu dans 2 journaux, Combat et Juin, que je ne valais pas la peine d'être annoncé, et que je n'étais pas assez commercial pour la masse. Seulement la masse, qui n'a jamais cessé de réprouver ce que je faisais, n'a jamais cessé non plus, nuit et jour, de me fréquenter. Avec l'extension de ses organes intimes, nuit et jour, de me fréquenter. Monsieur Bougnat, monsieur Cantonnier, monsieur Rémouleur, monsieur Coutelier, monsieur Vidangeur, monsieur Ramoneur ne s'occupe en général pas de moi, ni corporellement, ni en pensée. Mais monsieur professeur, monsieur prêtre, monsieur médecin, monsieur soudoyer, flic soudoyer de la Sorbonne, monsieur haut salaire de la régie, des finances, de l'enregistrement, monsieur haut gradé de l'administration, monsieur père des institutions, monsieur pape, monsieur rabbin, monsieur soufi, monsieur peintre, monsieur écrivain, et monsieur comptable, et monsieur pharmacien, et monsieur restaurateur, et monsieur haut placé, et monsieur bien placé, enfin monsieur simplement placé, et leurs femmes, leurs fils, leurs filles, leurs femmes de chambre, leurs cuisiniers, n'ont jamais cessé de me joindre, et pour me joindre, de me chercher comme la lèvre cherche la lèvre dans l'espace et l'immensité. Le corps des gens ne fait pas grand-chose, mais leur esprit d'inverti, qui ne vit que du corps des autres, ne se lasse pas de circuler. Tant il y a qu'à la fin, l'esprit finit par n'être qu'un sexe en prurite, d'avaler sans jamais se lasser tout ce qui peut se présenter. La masse passe pour ne pas aimer les idées. Et elle ment, car c'est elle qui les a imposées. Tout ce qu'on appelle cerveau vient d'elle. Ce qu'on n'a pas encore, ayons-le en pensée, s'est-elle dit. Ce serait bien le diable si le corps par cette voie-là ne finissait pas par venir aussi. Un tel, dit Rimbaud, croit qu'il est un homme? Eh bien non, et il est un chien. La masse passe pour avoir été sans conscience et sans pensée. Eh bien non. Et rien comme la masse pour aimer la spiritualité. Pourquoi ? Parce que l'esprit permet d'avoir et de posséder tout de suite ce qu'il aurait fallu marcher 100 ans pour commencer à mériter. C'est ainsi que tout le monde et de plus en plus se fait maintenant initié. Or, le plus proche parent de l'esprit, c'est la chair, dans le sens sexualité. Ce qu'elle ne pense pas avec ses bras et ses pieds comme un soldat du rythme et de la mesure physique, elle le pense avec son cerveau sans bouger. C'est ainsi que des cailles lui tombent du ciel, à point cuites et rissolées. Et que l'imbécile qui, comme moi, a voulu tout théâtraliser et n'avoir pas un sentiment ou une idée qui soit un geste concret dans une mesure physiquement passionnée, se voit ravi son travail par les singes d'une crapuleuse immobilité. J'ai déjà dit que la conscience était menée. Je dirais plutôt maintenant qu'elle mène les choses contre une infime minorité de personnes qui, comme moi, veulent faire des pieds et des mains pour vivre et non cuisses écartées et sexe gratuit, attendre longuement et passionnément ce qu'elle pourra pomper de ce qui circule de force péniblement gagnée et disponible parce que jusqu'ici inutilisé. Les initiés ont appris à la conscience à pomper. Pomper physiquement des gencives et des lèvres, comme on renifle un macaroni. Il n'est pas de petite ville française, il n'est pas de recoin de Paris où, de jour comme de nuit, un néophyte des porcheries invisibles n'absorbe un corps perdu par Catherine, Yvonne, Ella, Cécile, Anna, Annie, ou arraché à Artomomo, de force, arraché à Artomomo. Seulement, Artomomo a compris le truc. Il sait qu'il n'y a pas d'esprit, mais des hommes. Des millions et des millions d'hommes, des centaines de millions d'hommes qui, sur la Terre, font de la magie, de la simple magie corporelle, de la sale magie sexuelle, celle que l'on peut faire au bord de son lit. Moyen-Âge a connu les succubes. Il y avait moins de gens qu'aujourd'hui qui avaient peur de parler des succubes. Et surtout, il y avait moins de gens qu'aujourd'hui qui étaient eux-mêmes des succubes. Et voulaient accuser le mal parce qu'ils avaient au moins intérêt à réclamer la cessation du mal. Le théâtre de la cruauté ne date pas d'aujourd'hui. Il y eut de très grands personnages qui de tout temps en ont fait partie. Euripide, Sophocle, Échille, Chaucer, Ford, Cyril Tourneur, Villon, Baudelaire, Gérard de Nerval, Edgar Poe, et qui sait peut-être monsieur ou madame ou mademoiselle. En tout cas, le comte. Inapprochable de l'autre éamont. Eh bien, rassurons-nous. La société, comme me l'a dit 100 fois le docteur Gaston Ferdière, la société se défend de nous. Elle nous évince, mais en même temps elle nous baise, après nous avoir mis en prison. Je ne pardonnerai pas à cette société mes 9 ans d'internement arbitraire, mais je ne lui pardonnerai pas non plus de m'avoir mis en prison. Afin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de me bouffer gentiment le con. J'ai vu le sacrifice du cochon de verre fait par les juifs, le sacrifice de la bique, le sacrifice du fétiche entier. J'ai vu le rite du Graal bénitier qui consiste à faire tenir dans la matrice de la coupe pleine la bourse tordue et compressée et étirée de l'homme avec ses 2 testicules glissant sur le limon d'une bave échauffée. J'ai vu... Et je sais comment les hommes s'y prennent ainsi de loin pour me stériliser. Mais pourquoi moi, et pas 100 000 autres ? Parce qu'il faut croire que j'ai trop bien travaillé la mise en scène de la dernière pièce du théâtre de la cruauté. Mais à cette poésie, à cette parole, des faits. Ce que l'on prend ainsi de loin, bouche arquée, mâchoire rivée, à un homme qui a trop bien travaillé, est une espèce de poudre suée, qu'on appelle en pharmacie héroïne. Et cela fait combien de tonnes d'héroïne que m'a ravi ainsi la société ? Je ne sais. Mais pour moi, ça fait une tonne de belle et pure héroïne que la société va me restituer. Car les envoûtements auxquels je fais allusion ne sont pas des manœuvres épisodiques, du ça et là, à tel ou tel homme qui se moucherait ou se masturberait. Elles constituent des opérations d'ensemble, et je suis le tronc et l'axe visé. Mais avec moi, il y a tous ceux, les rares, qui ont toujours pensé comme moi et furent toujours prêt, non pas à mourir, mais à refuser de mourir avec moi. Je l'ai déjà dit, le corps humain n'a pas été créé pour être malade. Il n'a pas non plus été créé pour mourir. Je cherche comme moi 50 hommes, hommes ou femmes, qui soient décidés à ne plus mourir, à ne pas glisser de l'autre côté, lequel n'a jamais existé. Je retrouverai la canne d'Irlande, et j'en ai une encore mieux plantée. Quand ces 50 hommes seront trouvés, je ne m'embarquerai plus, comme je l'ai fait en 1936 à Anvers, pour le Mexique, avec mon passeport en règle et en payant régulièrement mon billet. Mais j'ai déjà dessiné le modèle de 8 petits canons pneumatiques pour aller en montagne à dos de chamois et de mulets. Je sais qui j'obligerai à me restituer cette tonne d'héroïne parfaite. Et je sais qui, avec ces 50 hommes, j'irai attaquer à main armée. Les manitous de l'invisible ne sont pas si bien cachés qu'on ne puisse toujours les rejoindre avec du souffle et un peu de doigté. L'amas des Andes égarés à Pantruche, agent de la sûreté de Pantruche, mal agrippé sur les monts du Tibet. La recherche d'une demi-douzaine d'intoxiqués inoffensifs n'a aucune espèce d'importance au regard de la paix de l'humanité, alors qu'il y a toutes les nuits en Inde, en Mongolie, au but de Chaumont, devant l'obélisque, du côté de la rue Mouffetard, du Trocadéro la nuit dernière, de sales partous criminels sadiques qui ne peuvent avoir d'autre issue que dans la grillade immédiate des partousards. Et je vous fous mon billet que ça aura lieu. Et je suis sûr que ça leur pend au nez. Et je n'ai pas du tout l'intention de sombrer.